Il veut aussi que 2018 soit une année où la vie communautaire, nos frères et sœurs, ce matin, nous l'ont rappelé. On ne réalise pas toujours. On réalise pas toujours combien c'est précieux que des communautés chrétiennes fondées sur l'Évangile, sur la bonne nouvelle du salut, existent, vivent avec leurs souffrances, leurs tribulations, et qu'elles vivent, j'allais dire, physiquement. Je rappelle souvent qu'on peut être gavé, je vais en dire beaucoup de choses ce matin, de toutes sortes d'enseignements, mais si on ne vit pas ensemble, personne ne nous marche sur les pieds et tout va bien. Et on pourrait même croire qu'on est déjà au ciel, mais on ne l'est pas. Dimanche dernier, un cri a jailli dans les prières. « Parle-nous, Seigneur. » Dans Ésaïe, on a le prophète qui dit « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. » Il dit quelques versets après « Seigneur, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. » Oui, parle-nous, Seigneur. Mais nous sommes au milieu d'un brouhaha incessant et la question est comment entendre. Notre sœur, dans la prière tout à l'heure, j'ai noté « Seigneur, le monde est fou, c'est déstabilisant, on ne sait plus où donner de la tête, ta parole nous maintient dans tes voies. » Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est ce matin, le thème de mon message, je parlerai des anciens sentiers. Alors je vais y venir, mais avant, pourquoi parler des anciens sentiers? Parce que ben, précisément, et cette prière m'y encourage, il y a un brouhaha terrible dans ce monde. Alors parle-nous Seigneur, mais s'il y a un brouhaha, comment entendre? Quel est ce brouhaha? L'offre religieuse, philosophique, politique est abondante. Le monde est un village, les forums sont nombreux, les réseaux sociaux se multiplient et se démultiplient, sans oublier au passage de qualifier de manière très précise les pensées, les goûts de ceux qui s'y connectent et qui parfois s'y livrent totalement. J'aime mieux dire tout de suite les choses. Je ne suis pas, ne croyez pas que j'ai quelque chose contre ces moyens de communication. Il y a eu l'imprimerie, il y a eu tout un tas de choses, il y a eu l'avion, il y a eu la voiture, il y a eu tout ce qu'on voudra, le télétype, le Minitel, pas de problème. Sauf que c'est de plus en plus dangereux et qu'on peut s'y laisser prendre. Que nous le voulions ou non, il faut faire avec. Simplement, il est nécessaire de ne pas nous croire plus forts que les autres. De nouvelles voies sont proposées chaque jour pour, au milieu de ce monde un peu fou, je reprends l'expression, des nouvelles voies sont proposées pour trouver un équilibre, sans juger personne, mais en débattant, en confrontant, en partageant. Alors, l'information se multiplie, tout le monde parle de tout. L'Europe, qui avait pour devise liberté, égalité et solidarité, a aussi l'unité dans la diversité. C'est merveilleux, l'unité dans la diversité. Sauf que, ce faisant, le relativisme est partout. La différenciation produit, qu'on connaît bien dans le marketing, il n'y a qu'à voir les yaourts, mais pas seulement, les voitures, aujourd'hui, on peut avoir exactement la voiture qui nous correspond, parce que comme si c'était un trait de notre personnalité. La différenciation produit est sans limite, y compris, il faut bien le reconnaître, dans le monde religieux, où chacun prend ce qui lui paraît acceptable ou suffisamment attrayant et convivial pour être acceptable, entendu, et pouvoir être partagé sans que ça fasse pas trop de remous. Ainsi, par glissements successifs, nous voyons s'estomper la personne de Jésus-Christ, puis la croix et ce qu'elle représente. Un consensus se réalise petit à petit autour de Dieu, puis dans une logique d'intégration, voire d'inclusion, j'ai un peu découvert ce mot, d'inclusion, on veut inclure tout le monde. On veut vraiment que personne se sente exclu. Alors, on intègre de plus en plus large. Comme on veut que personne se sente rejeté, Dieu lui-même s'estompe à son tour. Et l'homme apparaît comme la mesure de tout, la science lui permettant de comprendre et d'explorer toujours plus loin sa compréhension de l'univers où il vit, reconnaissant que ceux d'avant ont abîmé les choses, Hein, c'est quand même une autre version de « c'est pas moi, c'est l'autre hein. ». Mais que la génération actuelle, et encore plus celle qui suit, est belle, généreuse, qu'elle a soif de justice, qu'elle est décomplexée et libérée, et que l'on va voir ce que l'on va voir. Et encore une fois, le monde religieux est troublé et déstabilisé devant la vitesse à laquelle les choses évoluent, et la tentation est forte d'emprunter de nouveaux chemins. Tandis que je préparais ce message hier soir, j'ai des mails, et j'ouvre un mail qui m'arrive du CNEF, un mail d'information du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. C'est une institution qui, sur certains côtés, eh bien, vraiment prend des positions, etc. Et j'ouvre un moment, puisqu'on était invité à lire dans la revue de presse une vidéo, à voir une vidéo d'Emmanuelle Duez, que j'ai découvert à cette occasion-là, une jeune femme pimpante de la génération Y. Alors, je ne vais pas vous faire une formation là-dessus. Comme les choses vont très, très vite, il y a les générations... Bon, de toute époque, il y a eu, par rapport aux générations, peut-être des difficultés de communication. Mais les choses s'accélèrent. Donc là, la génération Y, je crois que c'est la tranche des 20-30 ans, peut-être pas tout à fait jusqu'à 30. Hein. Parce que 30, déjà, ça commence à... Et les Z sont là, arrivent, c'est les moins de 20 ans. Elle disait des choses intéressantes. C'est une chef d'entreprise, conseil aux entreprises, parce que les entreprises ne savent plus où elles en sont non plus, hein, à la vitesse où les choses évoluent. Et elle expliquait, alors on peut critiquer, rejeter, etc., la jeunesse en disant « Oh, c'est plus ce que c'était ». Ça ne sert à rien. Elle invitait alors à dire ceci. La génération Y, c'est la génération de la première fois. Se trouve dans une situation complètement inédite au regard de l'histoire. Ça, je crois que c'est vrai. C'est un fait. Jusqu'à... alors, je ne veux pas faire savoir si Y, W ou X, mais on va dire à peu près jusqu'à 50 ans, la transmission, on peut dire, si on veut aller un peu plus large, avant la Première Guerre, il y avait quand même une transmission visible, que ce soit des métiers, etc., etc. Les choses se sont accélérées, c'est un fait. C'est un fait, hein, je ne suis pas en train de nier ces choses-là. Donc, génération de la première fois, première génération mondiale, elle expliquait qu'il y a moins de différence entre un jeune européen, un jeune d'Afrique du Sud, un jeune asiatique, aujourd'hui de 25 ans, qu'entre eux, en France, en Europe, un jeune de 25 et un baby-boomer, comme ils les appellent, ça doit être un peu ma classe, les baby-boomers, vous savez, ceux qui sont nés après la guerre en masse, au niveau culturel, au niveau mode de pensée. Bon, génération de la première fois, première génération mondiale, première génération numérique, c'est un fait, ça. Première génération qui a à peu près tout sur son portable. Elle ajoutait, c'est une génération donc, puisqu'elle a tout sur son portable et l'information, transparente, alors là on pourrait commencer à discuter, transversale. Ensuite elle ajoute une première génération postmoderne. Alors la postmodernité, c'est tous les modèles sont à réinventer. Elle a cette expression des héritiers sans héritage. Elle conclut que, également, première génération omnisciente. Et elle explique, externalisation du savoir, j'ai toute la connaissance dans ma poche, avec mon iPhone ou autre. Elle termine, cela fait de nous les individus les plus puissants, puisqu'aujourd'hui, par des réseaux, par une pétition, etc., on peut renverser un pouvoir, un dirigeant. Pourquoi je vous parle de ça ce matin? J'ai hésité, mais je me suis dit, c'est curieux. Au moment où je préparais ce message sur les anciens sentiers, en disant toutes les voies nouvelles qui sont proposées, j'ai ce message qui m'arrive, et ça m'a interpellé. Après, je me suis dit, pourquoi le CNEF? C'est ça, en disant, le CNEF envisage dans les mois à venir de proposer aux responsables d'église, leaders, leadership et compagnie, de comment intégrer toutes les générations. Ça veut dire au moins que tout le monde est d'accord qu'il y a une grosse difficulté. Permettez-moi quand même de dire qu'il y a quelque chose qui m'a troublé, mais pas très longtemps. Irons-nous chercher dans le monde les solutions à nos problèmes alors que nous avons la parole de Dieu? C'est quand même la question que je me suis posée. Alors, comprenez-moi bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ce matin. Mais en contraste, je ne veux pas vous renvoyer, si vous avez du temps, je vais parler du temps, il ne faut pas qu'on le gaspille. Cette jeune femme, elle est pimpante, elle est brillante. Brillante. Je suis collaboratrice des fois dans ma vie professionnelle comme ça. Brillante. Intellectuellement, c'est impeccable, ça coule, c'est fluide, c'est beau, pac, tac, tac, ça tombe, il n'y a rien à dire. Elle intervenait devant des chefs d'entreprise, côté en bourse, pour leur expliquer, ils ne savent plus où ils en sont. Ils ne savent plus où ils en sont. Alors moi, je ne côtoie pas les chefs d'entreprise côté en bourse, mais ces derniers temps, j'ai côtoyé quelques artisans. L'un me dit, je dis, non, vous avez un compagnon, qui a l'air d'être bien. Oh, il me dit, c'est formidable, il vient tous les jours au travail. L'autre jour, ça fait à peine un an. Mes jeunes qui sont là par là, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Nous étions au restaurant à Montfort-sur-Meu, il y a un très bon restaurant à Montfort, et vraiment, on est bien accueillis, et la serveuse qui était là, je dis, c'est pas possible, c'est la fille de la maison, ça, vraiment. Je pense qu'elle portait la maison comme si c'était la sienne. Et en partant, on discute avec le patron, et je dis, c'est votre fille? Non. Oh, mais on est content parce que elle dit bonjour aux clients, elle est polie, vraiment, c'est formidable. Ça manifeste quoi? Ça manifeste le trouble. Ça veut dire que, oui, et je le sais, nous savons ici, nous parlons c'est avec les jeunes, c'est des temps difficiles aujourd'hui. Tous les modèles sont remis en cause. Je veux bien l'entendre. Mais en contraste, on pourrait dire en opposition à ce qui se manifeste tous les jours dans nos vies et dans le monde. Car je rappelle que nous sommes appelés à vivre dans le monde, ça nous était rappelé dans Jean 17, mais non pas à sa manière. L'Écriture, par la bouche du prophète, nous invite à retrouver les anciens sentiers. Je vous invite à prendre dans Jérémie 6, au verset 16. Jérémie 6, au verset 16, il faudrait lire tout le contexte, mais je vous invite à le faire. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, et marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Dans Jérémie 18, verset 15, on va même lire à partir du verset 11. Parle maintenant, Jérémie 18, verset 11. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Ou voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, poursuivre des sentiers, des chemins non frayés. Je vous laisse lire la suite sur les conséquences. Face au neuf, à ce que l'homme invente, Dieu dit « Revenez aux anciens sentiers, trouvez-les ». Ainsi, tout au long de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, des cris, des injonctions à choisir retentissent. Je vais les lire, je vous donnerai les références. J'en ai pris quelques-unes, d'un bout à l'autre de la Bible. Josué 24, verset 24, c'est la conclusion du livre de Josué, après un bon début de la conquête. « Maintenant, craignez l'Éternel, dit Josué au peuple, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. » Josué prend position. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Corentin, en m'installant le micro, me dit « Robert, tu gardes ta veste ?» J'ai dit « Oui, je garde ma veste. Je la garde et je ne la retournerai pas. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Au milieu du bruit, le Seigneur nous interpelle. Élie, 1 roi 18, verset 17, à peine Akab aperçut Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel et aussi des 450 prophètes de Baal, et 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoyant des messagers vers tous les enfants d'Israël, il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. La confusion vient quand on veut tirer les deux choses. Il n'y a pas besoin d'un long développement pour faire le parallèle des prophètes de Baal avec le prophète Élie. Première chose, ce n'est pas le nombre qui dit où est la vérité. Il y avait 450 prophètes de Baal, il y avait qu'Élie en face. Ça ne veut pas dire qu'il suffit d'être seul pour avoir la vérité, mais ce n'est pas le nombre qui fait la vérité. Les prophètes de Baal sont aujourd'hui partout. J'ai cité les institutions européennes, mais je pourrais multiplier. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour le coup sur Internet, ça c'est développé. Même le monde voit bien toute la manipulation qu'il y a. Astarté, toujours d'actualité, plus que jamais. Elle se manifeste de nombreuses manières. Nombreuses manières. Émasculation dans tous les sens du terme, quasiment, de l'homme. Femme sans protection. Solitude. Misère, parce que les choses ne sont plus à leur place. Je pourrais m'étendre. Je ne vais pas le faire. Jean-Baptiste, dans Luc 3, versets 7 à 11, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. De même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire? Dieu nous interpelle. Et dans ce qui m'a touché dans ce passage, c'est que beaucoup de gens se laissent interpeller quand même. Que devons-nous faire? Un jour, je développerai ça la prochaine fois. Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Parole tranchante, cœur touché. Que devons-nous faire ? À ce stade, nous sommes dans le baptême de repentance, le baptême de Jean-Baptiste, mais déjà, des gens sont touchés. Que devons-nous faire ? Jean-Baptiste dit des choses assez simples. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ne renvoie pas ta maison les malheureux sans abri, etc. Il ne dit pas des choses extraordinaires. Il va dire aussi au percepteur, contente-toi de faire ton travail sans en mettre dans ta poche. Il va dire aux soldats, contente-toi de ta solde, ne profite pas de ta force en tant qu'armée pour aller extorquer, etc. Jésus lui-même, Luc 9, verset 57, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Belle déclaration. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Parole tranchante aussi. Je vous dis tout de suite, aujourd'hui, je ne vous apporterai pas toutes les réponses. Je vous parlerai plusieurs fois sur ce sujet. Mais je crois qu'on doit se laisser interpeller. Jean 6, verset 65, et il ajouta, « C'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, ils n'allaient plus avec lui. Plus loin, dans Jean 14, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Encore une déclaration douloureuse, difficile à entendre. Jean 12, verset 24, « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, celui qui aime sa psyché, celui qui aime son âme, la perdra. Celui qui est sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Suivre Jésus, peut-être le découragement vient dire, mais on ne peut pas y arriver. Non, par nos forces, non. Mais je continue, Paul encore aux Corinthiens, parole tranchante, 1 Corinthiens 2, verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul au milieu d'une église, les Corinthiens, une église très riche, qui a reçu beaucoup du Seigneur, est obligé de rappeler ce fondamental. Ce qui fait notre unité, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et rien d'autre. Apocalypse, enfin, si j'aurais balayé tous ces textes tranchants de la Bible, enfin tous, non, mais en tout cas un certain nombre. Lettre aux églises, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça, c'est pour Éphésiens, la lettre aux Éphésiens. Notre premier amour. Ça me parle, le Seigneur me parle personnellement. Je crois qu'au moment où il nous prend, il nous donne des choses particulières qui ne sont pas encore accomplies, qui ne sont pas encore épanouies, mais il nous les donne. Si nous les avons perdues, si nous les avons... C'est sévère, là. J'avais noté « perdu » de mémoire. Non, le Seigneur dit « tu les as abandonnées ». Et là, ça m'a... Je dis, Seigneur, comment ça, je les ai abandonnés ? Oui, parce que, je parle pour moi, je ne parle pas, j'ai vu qu'au fil des années, des choses, oh, peut-être tu vas un peu loin, Robert, peut-être tu as reçu, mais c'est parce que tu étais un peu jeune dans la foi, maintenant il faut arrondir les angles. Et puis petit à petit, on s'écarte, on prend des voies nouvelles, on mélange un peu avec autre chose, on dit, oh, faut pas te rejeter, quand même, tu as appris des choses, tu as de l'expérience, et puis... Puis quand même, l'homme, il a réfléchi à la question. parle pas pour vous, je parle pour moi, là. Le Seigneur me montre. Dieu a abandonné toi. Toi, c'est pas moi qui t'ai trompé. Dieu ne trompe personne. Mais tu as toléré des choses un peu mélangées. Le Seigneur nous demande de remettre, de dire oui Seigneur, j'ai mélangé, de remettre au clair. Et qu'est-ce qui remet au clair, si ce n'est la parole de Dieu qui est tranchante? C'est la seule, c'est elle qui va séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit, parce que c'est bien là l'enjeu. Alors, sur les anciens sentiers, j'aborderai avec vous trois thèmes, pas ce midi, je vais en aborder un ce matin. La séparation, le principe de la séparation. Et puis une autre fois, je vais avec vous, le principe de la consécration. Et puis le principe de l'autorité, de l'obéissance et de la soumission. Et enfin, parce que là, avec des thèmes pareils, il y a de quoi tout abandonner. Comment cela est possible? Comment cela est possible? C'est par la nouvelle alliance. Sinon, ce n'est pas possible. Moïse a laissé une parole, il a dit au peuple, si vous mettez en pratique tous ces commandements, vous vivrez. Et ils sont morts. Parce que sans la nouvelle naissance, sans l'alliance en Jésus-Christ, on ne peut pas. Mais avec l'alliance en Jésus-Christ, cela est possible. Alors, premier principe, principe de la séparation. Je vais prendre quelques thèmes sur ce principe de la séparation. Nous devons vivre de manière différente avec les gens de ce monde et avec les chrétiens. Alors ça, je sais que ça ne plaît pas. Je m'explique. Paul, aux Corinthiens, va dire, mais où vous en êtes, Corinthiens? Vous avez des différends entre vous et vous les réglez. Vous faites appel à des gens du monde pour régler ça, des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Ça, c'est des comportements charnels. Ça peut être dans des situations familiales, plus des situations d'affaires. N'avez-vous pas, au milieu de vous, des hommes sages pour régler ça? Voilà un domaine où la confusion règne aujourd'hui. Sous prétexte qu'il ne faut pas juger, nous refusons de discerner. Or, il y a un discernement qui est donné aux chrétiens, c'est celui de la nouvelle naissance. Nous n'avons pas à juger où en est mon frère et ma sœur avec le Seigneur. Nous avons à pratiquer la justice, à aimer la miséricorde. Mais le Seigneur nous donne un discernement. Je dis souvent que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, comment va-t-on lui donner de la nourriture spirituelle, même du lait, pour quelqu'un qui est né de nouveau? Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il a besoin de quoi de notre part? Que nous dégagions un bon parfum et que nous prions pour lui, pour que le Seigneur lui accorde cette vie nouvelle. C'est tout ce dont il a besoin. S'il est né de nouveau, alors apportons de la nourriture. Le meilleur biberon, même avec du lait maternel, pour un enfant qui est dans le ventre de sa mère, n'est d'aucune utilité. Mais dès qu'il est né, c'est ça qu'il lui faut. Du lait. Puis plus tard, la diversification de la viande et des légumes. Attention à la confusion de notre âme, qui dit « j'aime tout le monde ». C'est l'émotion qui nous trimballe et qui nous balade partout. Le Seigneur nous a donné. Il n'a pas donné à des spécialistes. Si vous avez crise, vous avez la vie. Si vous n'avez pas crise, vous n'avez pas la vie. C'est pas moi qui le dis. C'est encore une parole tranchante du Seigneur. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas un jugement au sens de la condamnation. Ce n'est pas une gloire, ce n'est pas de l'orgueil. Il faut qu'on accepte ces choses. Oui, c'est un principe qui sépare. C'est un principe qui sépare. Je rappelle que le chrétien n'est pas épargné par la souffrance. C'est la nature des souffrances qui change. Ce qui fait souffrir normalement le chrétien, c'est de voir ses proches, ses bien-aimés, qui sont égarés dans les voies du monde. Pas pour le mépriser, pas pour dire « il est égaré ». Mais parce que ça fait souffrir, parce qu'on sait la vérité et que ce n'est pas toujours facile, c'est pas toujours commode, il faut le moment, il faut les circonstances. J'ai pas trop le temps ce midi, mais je vous donnerai bien certaines faits, anecdotes récentes. J'ai ma propre fille qui opposée, chose de Dieu, me dit des choses invraisemblables à l'époque. Et là, au milieu, assemblée familiale, fils aîné, la dernière, qui sont au Seigneur, et puis elle était là. Ça se passait normalement, tranquillement, peu d'ouverture, et d'un seul coup, après-midi, avec les petits-enfants qui jouaient, elle dit, « Papa, est-ce que... » Elle s'adressait à Sylvain aussi, mon fils, elle dit, « Est-ce que vous avez un livre qui explique comment Jésus est mort ?» Bon, j'ai regardé. Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais on est surpris, on prie, on souffre, parce qu'on souffre quand vous voyez votre fille, qui est par ailleurs intelligente, tout, médecin, etc., mais qui est gavée d'Harry Potter, gavée de pavés comme ça, de romans, on sait que ça fait des effets dans les cœurs. Et je crois qu'elle viendra à Christ. Mais ce que je sais aussi, c'est que toutes ces choses-là ont des conséquences, et que ça demande, après les années, on a besoin d'être purifié, d'être lavé, et donc ça nous fait souffrir en tant que chrétien, non ? Et puis le Seigneur intervient, il pose quelque chose. On ne peut pas le provoquer, ça. J'aurais pu lui laisser des bibles dans toute la maison et des machins, elle aurait surtout slalomé pour les éviter. Dieu agit comme il veut, mais pas de manière arbitraire. Est-ce que nous acceptons cette séparation ? Oui, j'ai accepté pendant des années cette séparation, même, j'allais dire, physique, parce qu'il y a des choses que j'avais posées. Mais c'est pas pour ça, hein. Je suis pas en train de dire c'est parce que j'ai fait ça. Non. C'est la grâce de Dieu. Par ceux qu'il a élus avant la fondation du monde. Faites baisser la pression qui porte sur vous. Faisons notre part. Il fait la sienne comme il veut. Comme il veut. Deuxième principe de séparation. Fuyez l'impudicité. Écoutez, frères et sœurs, la parole est claire. Il y a des choses, si on a connu l'impudicité, si on a connu la fornication, l'adultère, la parole est claire. Elle ne nous dit pas, tu peux t'approcher, machin. Fuyez l'impudicité. Mais qui se croit assez fort ? Ne participez pas, je pèse mes mots, ne participez pas à la vie mondaine. Je m'explique. 1 Pierre 4, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. De quelle pensée ? De la pensée de souffrir dans la chair. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez. Je ne sais pas, je pense qu'il y a un certain nombre parmi nous ce midi, qui disent oui, c'est assez. En effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Je ne dis pas que tout le monde a la liste. Pour ma part, j'ai toute la liste. Alors c'est assez d'avoir vécu dans le passé, accompli la volonté des païens. C'est assez. Et je m'arme de la pensée de souffrir dans la chair, de ces choses. Et j'en souffre encore. Un peu dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes bien-aimés. Alors c'est assez. C'est assez. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Amen. Amen. Eh bien, frères et sœurs, le Seigneur nous arme de la pensée de souffrir, si c'est pour ça. Certains, peut-être que je leur dis là ce matin, ne parle pas. Parce que, peut-être ayant été élevé dans des milieux d'une certaine protection, mais encore, on a besoin qu'on soit issu de milieux chrétiens, protestants, évangéliques, ce qu'on voudra. On a besoin de réaliser un moment combien dans les cœurs, nos cœurs, il est tordu, combien même dans les pensées se lèvent des choses qui nous souillent, dont nous n'avons plus besoin. Troisième thème de la séparation, user du monde comme n'en usant pas. Je vais peut-être lire là dans 1 Corinthiens 7, parce que c'est curieux ce user du monde comme n'en usant pas. 1 Corinthiens 7, c'est le chapitre où Paul répond aux questions, on va dire les questions matrimoniales. Alors qu'est-ce que ça vient faire d'user du monde ? On va lire un petit peu 1 Corinthiens 7. C'est un peu en conclusion, il a tout un chapitre sur le mariage, ceux qui sont en Christ, ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui sont célibataires, ceux qui sont seuls, enfin, etc., les veuves, etc. Et il dit au verset 29 ceci, « Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont des femmes, soit comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. » Ce qu'il faut retenir de là, c'est que Paul se situe dans une urgence. Il a une préoccupation majeure, c'est que Christ soit connu. Ainsi, même dans le couple, il met en garde en quelque sorte contre une place excessive que pourrait prendre le conjoint. Retenons l'enseignement. Le mariage permet de constituer un attelage dont le but est qu'il serve de royaume. Je parle d'un couple où l'un et l'autre se sont donnés à Christ. Car lorsque nous serons au ciel, les maris ne prendront pas de femmes et les femmes ne prendront pas de maris. Quand je dis ça, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, Marie, aimez vos femmes comme votre propre chair, et femmes, respectez vos maris. Mais ce que je veux souligner, c'est la notion du temps qui passe. Que faisons-nous de ce temps, justement ? C'est ça l'exhortation de Paul. Le temps qui passe, ça fait partie, ça, de la séparation. De quoi remplissons-nous notre temps ? De quoi remplissons-nous nos conversations ? Que ce soit en matière politique. On peut parler de tout, de cuisine, de vêtements, de voitures, de télé, des programmes à la télé, je ne sais quoi. Nous devons être informés. Il nous faut conduire les affaires de ce monde, enfin de qui nous concerne. Chacun doit s'occuper de ses propres affaires, c'est évident. Mais comment on utilise notre temps, dans le fond ? C'est ça la question qui nous est posée. Parfois, la passion dans les discussions sur certains sujets peut laisser un questionnement sur là où est notre espérance. Nous proclamons que notre espérance, elle est dans la Jérusalem céleste, elle est dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce que l'usage de notre temps dit à ce sujet-là ? Enfin, autre pensée sur la séparation, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, à nouveau. Et le monde passe. Frères et sœurs, je reconnais, nous avons du mal à lever les yeux. Pourquoi ? Parce que ce monde qui a plein d'idées, il est mené par Mammon et on ne peut pas servir les deux maîtres. Et le problème, c'est que Mammon l'évoque peu au milieu de nous. Ce problème de l'argent, il faut bien vivre, il faut bien ceci, etc. On a Marthe et Marie, on a tout ça. Et c'est un sujet délicat parce que, d'un autre côté, nous sommes appelés, le chrétien doit être quelqu'un, je crois, courageux, d'être ferme, de travailler. Hein, celui qui travaille d'une main lâche amène la ruine. Nous devons être bien positionnés. Mais justement, bien positionnés. Nous avons à faire ce que nous avons à faire, mais regardons à quoi nous passons notre temps. Si nous sommes bien positionnés, si nous nous occupons de nos propres affaires avec le temps qui convient, sans nous perdre dans des choses futiles et inutiles, nous aurons aussi, et le Seigneur nous conduira dans des contacts, dans des relations pour annoncer Christ. On n'a pas besoin de choses forcément spécifiques. Je faisais le compte, nous avons fait des travaux un peu de rénovation à cette occasion-là, à travers les différents acteurs. C'est plus de 35 personnes avec qui nous avons été en contact. En contact. Une maison, ce n'est pas banal. Donc, on parle de sa vie. En contact, 35 personnes, sans chercher. Que faisons-nous des contacts que nous avons? Ah non, mais là, je m'occupe de mes affaires. Mais comment ça, tu t'occupes de tes affaires? Tu t'occupes des affaires du Père aussi en même temps. Considérons les contacts que le Seigneur met place avec une administration, avec une hôtesse de caisse. Je dis ça parce que c'est des choses vraiment qui m'ont marqué et que j'ai toujours à cœur. Je vois, on a le temps souvent d'observer, pour peu qu'il y ait un peu de temps, on voit les comportements. C'est-à-dire que notre temps, où on s'occupe des affaires de ce monde, le Seigneur place. Il ouvre des portes. Nous avons l'occasion souvent le mardi de partager, quasiment tous les mardis, on partage les uns les autres. J'ai rencontré tel, j'allais là, ma voisine, etc. Et on prie. C'est très simple. Le Seigneur place, je fais mon travail, je fais ce que ma main trouve à faire, ce que le Seigneur me montre que j'ai à faire, des choses très concrètes. Et le Seigneur, il est là, il pilote tout. Pensée de la séparation. Première pensée des voies nouvelles. Le Seigneur met à part. Et la mise à part, frères et sœurs, des fois ça fait mal. Le prophète Osée a dû vivre, on ne réalise pas. Attention quand on dit ainsi parle l'Éternel. Osée. L'Éternel lui a parlé, il a entendu. Prends une femme prostituée et fais-en ta femme. Le Seigneur parle, je l'emmènerai au désert, je vais la séparer, je vais la mettre à part pour lui parler. Si je parle de ce thème de la séparation comme premier thème, nous avons besoin de vivre cette séparation pour pouvoir ensuite être consacrés. Ce sera un autre thème. Non pas se séparer pour se séparer et se replier. Pas du tout. Se séparer, être séparé, vivre cette séparation pour entendre. Et que nous puissions dire, alors parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Séparer pour se consacrer, être séparé pour le connaître et entendre la voix du bon berger. Alors je m'arrêterai là ce matin. Que nous acceptions ça, que nous nous armions de cette pensée de souffrir. Alors, je pense qu'au milieu du brouhaha de ce monde et de toutes ces propositions de voies nouvelles, plus riches les unes que les autres, qui visent à accomplir le moi, le monde souffre. Je ne dis pas pourquoi ces choses sont si abondantes aujourd'hui. Parce qu'il y a une souffrance, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie de couple ou de non-couple, parce que tant sont séparés. Il y a tellement de souffrances. Il y a tellement de liens puissants. Oui, c'est la mondialisation, toutes les cultures sont mélangées. Oui, les liens, les coutumes, derrière lesquels nous savons qu'il y a des puissances de ténèbres. Dans tous les continents et tous les pays, elles se sont aussi ajoutées. Et il est bien difficile d'y voir clair. Mais le constat, vous savez, je n'ai pas besoin d'aller voir bien loin. On croit. Parce que On pense qu'on est fort. On croit qu'on peut s'ouvrir à tout et qu'on va comprendre tout et qu'on a une compréhension universelle. L'omniscient et l'omnipotent, il n'y en a qu'un. C'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, nous sommes faibles, nous sommes ses créatures, mais nous sommes ses rachetés. Demandons vraiment au Seigneur la sagesse pour supporter et vivre cette séparation. Et retrouvons, au cours de cette année, les anciens chemins. Je vous donne un commandement qui n'est pas nouveau, mais qui est nouveau en Christ. Aimez-vous les uns les autres, vous, parce que vous ne pouvez pas vous-même. Mais les commandements anciens, la route ancienne, qui n'est pas usée et qui défie la mode, elle est là. Nous prions. Seigneur notre Dieu, toi, Seigneur, qui connaissais cette communion avec le Père qui nous a été rappelé ce matin, Seigneur, dans ta prière sacerdotale, dite sacerdotale, Seigneur, tu as accepté, tu savais, Seigneur, que tu serais séparé du Père. Tu as poussé ce cri, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Père, tu as vécu cela pour que nous puissions vivre cette séparation, Seigneur, de l'esprit du monde qui peut faire souffrir la chair, Seigneur. Mais Seigneur, cela est possible. Parce que nous ne sommes pas séparés de toi. Parce que tu t'es révélé à nos cœurs. Seigneur, je proclame ce matin que tu es mon espérance. Que nous te verrons. Nos yeux te verront. Seigneur, nous savons ces choses et nous te bénissons. Je te prie, Père, pour mes frères et sœurs, pour moi-même, Seigneur, que nous grandissions dans la connaissance de ta personne. Seigneur, oui, nous acceptons d'être mis à part individuellement et aussi, Seigneur, collectivement. Seigneur, je te prie pour notre communauté. Que, Seigneur, ton œuvre à la croix puisse opérer en profondeur. Pour que ce soit, Seigneur, les fruits de ton esprit qui se manifestent. L'amour, la bénignité, la bienveillance, Seigneur. Seigneur, cela nous conduira dans des chantiers, oui, d'humiliation, Seigneur, pour apprendre à marcher humblement. C'est ma prière ce matin, Père. Amen.